Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis dans les studios avec Fifi. Bonjour Fifi.
Bonjour.
Nous sommes réunis autour du micro pour accueillir Jean-Claude Picard, sexologue clinicien et auteur de plusieurs livres, Les deux extases sexuelles, la jouissance et l'orgasme, notre petit livre de chevet chez les Giraffones, La fabuleuse histoire du clitoris, et sorti tout dernièrement, Du bon usage du sexe. Jean-Claude Picard, bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude, tu es sexologue, mais tu t'intéresses beaucoup finalement à l'histoire de la sexualité. Comment la sexualité est perçue et vécue durant ces derniers siècles? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sexe dans l'histoire?
Lorsque j'ai fait ma formation de sexologue clinicien, au début des années 2000, à la fac de médecine, à ma grande surprise, il n'y avait pas de clitoris. On était une trentaine d'élèves, et la plupart ne s'en sont pas aperçus, même des femmes d'ailleurs. Ce qui est quand même incroyable. Et il y a quelques femmes qui s'en sont aperçues qui étaient en colère. Et moi, je ne suis pas trop en colère. Par contre, je suis curieux. Et la question qui s'est posée, c'est comment on en est arrivé là? Donc j'ai cherché à comprendre et j'ai fouillé dans les livres d'histoire. Et ce n'était pas si difficile. Tout est dans les bibliothèques. Hein, donc il faut de la méthode, il faut du temps. Mais... Donc dans la fabuleuse histoire du clitoris, j'ai montré les grandes étapes, les grandes dates de la lutte contre la sexualité et comment le clitoris avait été utilisé essentiellement à des fins procréatives. Il y avait une sorte de légende par rapport à notre sexualité et d'aller chercher dans l'histoire les sources, c'est intéressant parce qu'on comprend mieux comment on est arrivé là, quoi. Je commençais à voir que le fil directeur, le moteur de toute cette répression, c'était la pensée nataliste « il faut faire des gamins ». La pensée nataliste a été le principal moteur de la répression sexuelle.
Alors effectivement, tu parles carrément de conspiration nataliste. Alors qu'est-ce que tu entends par là?
La première grande attaque de grande envergure sur la sexualité, elle se fait au milieu du siècle des Lumières, en 1760, notamment avec Tissot, le docteur Tissot, qui est un médecin protestant, et il s'attaque à la masturbation. Cette attaque a marché très fort parce que la masturbation, qui n'était pas un problème, qui n'a aucun livre avant, en 10 ans, ça devient un problème de santé publique. Hein, parce que l'argumentaire, c'était si tu te masturbes, tu vas tomber malade, voire tu vas mourir. Hein, c'était une pratique funeste. Funeste, ça partage son étymologie avec funérailles. Et là, moi, la question qui m'a taraudé, que j'ai cherché, c'est: à qui profite le crime? À quoi ça sert aussi brutalement de salir la masturbation? Il n'y avait pas de raison logique. Toutes les raisons qui sont dans les textes, par exemple, de Tissot et des autres et consorts, les autres qui ont participé à ce massacre, il n'y a rien de logique dans tout ça, quoi. C'est que de la fabulation, quoi. Et moi, j'ai cherché. Et en cherchant, j'ai vu que la seule cause plausible, c'était... La méthode contraceptive qui était couramment utilisée dans les couples à cette époque-là, c'était la masturbation réciproque en couple. Donc il fallait salir la masturbation pour faire diminuer cette pratique contraceptive. Quand un groupe travaille à quelque chose en cachant le but, la définition, c'est que c'est une conspiration. C'est la définition qui est dans le dictionnaire. Donc c'est parce qu'ils ont mené une action en cachant le but qu'il faut employer le terme de conspiration.
Comment ça s'est traduit, cette interdiction de la masturbation?
Alors, ça a été très différent selon les pays. J'ai un peu évoqué, si vous voulez, on évoquera un peu plus en profondeur la raison, mais ça a été porté par les protestants. Et c'est la pensée protestante qui s'est insurgée contre la masturbation. Ça, on le savait pas. Moi, j'avais aucune idée de ce genre de choses avant de commencer ces travaux. Mais tous les textes le prouvent. Dans les pays protestants, la répression de la masturbation a été violente. En Allemagne, une femme, une masturbatrice récalcitrante, était excisée. Et comme ils connaissaient toute l'anatomie du clitoris, ils extirpaient tout. Avec des complications opératoires probables, quoi. Mmh. et des complications cicatricielles. Enfin, c'était sûrement terrible pour ces femmes. Et en France, quelque part, on a été protégés par les catholiques. Je n'ai pas retrouvé de cas d'excision punitive en France. Et tout ça, c'était pour les empêcher de mourir. Parce qu'elles se masturbaient, quoi. C'est un truc de fou, quoi. On voit à quel point la légende peut pousser, la légende sur la sexualité, entre autres, peut pousser à faire des aberrations, quoi.
Peut-être qu'on peut quand même revenir sur ce contexte et sur l'importance du protestantisme dans cette conspiration nataliste. Est-ce que tu peux essayer de nous l'expliquer ?
Alors moi, je croyais, comme tout un chacun, avant de faire ses travaux, que le protestantisme, c'était une variation de la religion chrétienne et que ça n'avait pas été aussi important. Enfin, ce n'était pas un événement majeur. Et on s'aperçoit que c'est un événement qui a profondément marqué notre culture. Dans le rapport à l'argent, pour les catholiques, l'argent est sale. Donc, si on en gagne, on ne peut pas trop aller au paradis. Hein. Il est plus difficile à un riche d'aller au paradis qu'un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Le trou de l'aiguille, c'était une petite porte de Jérusalem où il fallait passer à quatre pattes. Donc un chameau ne pouvait pas passer. Donc ça, c'est un des textes qui sont dans les évangiles. C'est Jésus qui aurait dit ça. S'il a existé, ça, c'est un autre problème. Mais les catholiques étaient rétifs par rapport à l'argent. C'est-à-dire que celui qui avait gagné de l'argent, il ne pouvait pas aller au paradis, donc il pouvait acheter sa place au paradis. Hein, donc s'il versait, c'était à la fin du Moyen-Âge, il pouvait verser des indulgences, une forte somme d'argent à l'Église, et on lui garantissait le paradis. Un commerce qui a bien marché, parce qu'il n'y a pas eu tellement de plaintes de services après-vente. mais c'est, bon. Et cet argent servait à faire les cathédrales, hein, entre autres. Le clergé vivait richement, et les cathédrales qui étaient des monuments extrêmement coûteux par leur technologie, hein, parce qu'il y avait une course à avoir la cathédrale la plus haute, quoi. Entre les villes, c'était à qui aura la plus grande, quoi. Les protestants ont dit ça va pas. Et pour les protestants, l'argent n'est pas sale en soi. Il est sale que s'il est ostentatoire, comme les cathédrales, et pend sur le bec. Par contre, ils disaient, l'argent, ça sert à préparer l'avenir. Et ils disaient aussi, dans Notre Père, il y a un verset hérétique. Donnez-nous notre pain quotidien. Il disait, Dieu, ce n'est pas le chef de la cantine, il n'est pas là pour ça. Il a d'autres choses à faire, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, mais bon. Et nous, on est là, c'est à nous de préparer l'avenir. Et il y aura des années mauvaises, on le sait. Donc à nous d'améliorer la production, d'améliorer le stockage. Et si l'argent servait à améliorer l'avenir, la production, c'était un usage sain de l'argent. Et ça a donné le capitalisme. Et le capitalisme ne peut vivre que s'il y a la croissance. Ils ne le savaient pas forcément à l'époque. Je ne sais pas comment ils l'ont compris, ça, parce que le terme de capitalisme est apparu beaucoup plus tard. Hein. Oui. C'est Proudhon qui l'a trouvé au XIXe siècle. Mais ils avaient déjà compris qu'il fallait qu'il y ait la croissance. Alors, au niveau industriel ou artisanal, puis industriel, c'était facile, puisque tout était à construire. Mais ils ont compris d'une manière instinctuelle qu'il fallait aussi une croissance démographique. Donc la lutte contre les méthodes contraceptives. Et finalement, le problème de la croissance démographique, ça arrangeait tout le monde. Ça arrangeait donc les protestants qui voulaient voir leur business grandir. Mais ça arrangeait les armées, hein, il fallait de la chair à canon. Ça arrangeait les politiques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouaient sur le nombre. Et voilà comment les protestants ont influencé toute notre culture, quoi.
Alors, si on revient sur cette question de la masturbation, donc en fait, ce qu'on essaye d'interdire, c'est pas tant la masturbation solitaire, mais c'est la masturbation comme moyen de contraception, en fait. Donc, il n'y a pas que la masturbation, du coup, c'est toutes les pratiques autres que la pénétration.
Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Le moteur de l'homophobie, c'est que c'est une pratique non reproductive. Mmh. Hein, je cite une manif au moment de la manif pour tous qui a été organisée par Civitas, qui est un groupe d'extrémistes catholiques, avec une banderole où ils disent, une grande banderole, il y a marqué « La France a besoin de bébés, pas d'homosexuels ». Donc sur cette banderole, le lien...
Ouais, le lien, il est clair.
Il est clair, quoi, voilà.
Ouais. Doo 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 do quelle époque on connaît le clitoris comme étant l'organe du plaisir féminin et à quel moment on le sait ça ?
Alors, on l'a toujours su. Je vais vous expliquer un peu plus, mais on l'a toujours su, sauf au XXe siècle. Le premier texte qui décrit dans les textes modernes, avec l'apparition du livre, on va dire, c'est 1560, le premier texte d'un anatomiste qui décrit le clitoris, étrangement, il ne décrit pas l'anatomie, il décrit la fonction, qui est le plaisir de la femme. Et dans tous les livres, jusqu'au début du XXe siècle, l'organe du plaisir féminin, c'est le clitoris. Alors avec pour le clitoris, de nouveau encore un paradoxe. On ne voulait pas que les femmes seules se masturbent, hein, parce qu'elles pouvaient prendre trop l'habitude et après trop le pratiquer en couple. Mais il y avait la vieille pensée d'Hippocrate qui pensait que pour qu'il y ait procréation, il fallait que la femme émette une semence. Et pour émettre cette semence, il fallait qu'elle ait un orgasme. Et comment on donne un orgasme à une femme ? Avec le clitoris. Donc l'usage du clitoris était interdit en solitaire. Pendant 150 ans, ça a duré le double statut du clitoris. Il était interdit en solitaire, mais il était recommandé dans le couple conjugal à des fins procréatives.
Même par l'Église ?
Même par l'Église. Jusqu'en 1890, l'Église recommandait l'usage du clitoris dans le lit conjugal.
En fait, on pense qu'il y a fécondation quand il y a plaisir.
Voilà.
Alors, mais ça, moi, ça m'a beaucoup surpris, parce que comment c'est possible ? Parce que les femmes, elles le savaient très bien, que plaisir et fécondité n'étaient pas liés.
Alors, il y avait énormément de contre-exemples, effectivement. Au début des années 1700, il y a des médecins, notamment De Graaf, qui se sont opposés à cette théorie de la semence féminine. Hein, c'était le mouvement des ovaristes. Ils ont dit, il y a des ovaires, il y a des ovules, ça doit marcher comme ça, mais la médecine a perduré. Le courant principal de la médecine les a un peu écartés et ça a continué jusqu'au début du XXe siècle. Quoi.
Alors, il y a un paradoxe quand même avec cette histoire de masturbation. Donc, elle était interdite et pourtant, au XIXe siècle, on soignait une drôle de maladie. On a même parlé à l'époque d'épidémie. Cette maladie qui ne touchait que les femmes, donc c'est l'hystérie, hein, cette fameuse maladie imaginaire. Et cette maladie, elle était soignée justement par la masturbation. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
C'est un truc incroyable. Dans la lutte contre la masturbation, il fallait bien trouver des arguments. Alors, ils avaient trouvé ce qu'ils avaient pu. Ils avaient notamment pris la théorie des humeurs, hein, qui avait été développée par Hippocrate, 300 avant notre ère, et par Galien, 300 dans notre ère. Et cette rumeur, c'est le flegme, je ne me rappelle plus, enfin oui, qui circule dans le corps. Et ces humeurs, il faut qu'elles circulent librement. En excès, elles peuvent provoquer des fatigues. Par contre, si elles sont bloquées, ça provoque directement la maladie. Donc c'est le blocage qui était le plus grave. Donc Tissot et consorts se sont appuyés là-dessus pour dire que si on se masturbait, on allait trop émettre de sperme, qui n'était pourtant pas cité comme une humeur. Mais en disant, si tu émets trop de sperme, tu vas te fatiguer et tu vas mourir. Hein? Bon, il faut aussi le voir dans le contexte de l'époque où on ne vivait pas très longtemps et rester en bonne santé, c'était un peu un souci. Quoi. Et au XIXe siècle, est apparue une théorie. Alors, pour les femmes qui étaient un peu dérangées, qu'on appelait l'hystérie, c'était un peu un fourre-tout. Il y avait, du moment qu'une femme n'était pas bien, pof, elle était hystérique. Et là, si elle était célibataire ou veuve, et les veuves, il y en avait beaucoup, on disait les humeurs sexuelles sont bloquées, donc il faut les débloquer. Et qui c'est qui s'y collait ? C'est le médecin. Et alors, ça représentait un tiers du chiffre d'affaires de la médecine de ville pendant tout le 19e siècle. Alors, il y a un très beau film qui en parle, c'est Oh My God, qui montre très bien comment ça se passait, tout ça. Et alors, pour les médecins, c'était aussi une bonne affaire financière, juteuse. Parce qu'elles ne pouvaient pas tomber malades de leur maladie, mais elles ne pouvaient pas guérir non plus. Donc elles venaient pendant des années.
En voyant ce film hein, que tu cites, on apprend aussi que c'est de là qu'est venue la création du vibromasseur, en fait.
Par les médecins.
Avant l'aspirateur.
Hein. Avant l'aspirateur, oui. Mais parce que c'était une opération qui pouvait être chronophage. D'ailleurs, dans le film, on voit le médecin qui a des crampes.
Oui, il a des crampes aux mains. Ouais.
À force de travailler, quoi. Toute la journée, bon. Et pour s'économiser, il invente le vibromasseur. Quoi. Alors c'est aussi avec l'arrivée de l'électricité. Mais avant, il y en a eu à pédale, il y en a eu à vapeur, il y en a eu plein de tentatives de mécaniser. Quoi.
Il y a dû y avoir de sacrés accidents.
Ouais, ça fait un peu peur, ouais. Donc alors, du coup, c'est fin 19e, on se rend compte que le clitoris n'a rien à voir avec la reproduction.
Voilà.
C'est un organe qui est fait pour le plaisir et seulement pour ça.
Voilà.
C'est ça ?
Tout à fait. Alors ça, c'est le travail des ovaristes qui a enfin abouti dans les années 1880, hein, où là, avec l'aide du microscope, on voit le spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule, mais surtout, on admet que l'ovule est lié au cycle menstruel et que le plaisir de la femme ne change pas grand-chose dans le cycle menstruel. Donc l'ovule, elle va advenir au 15e jour du cycle et c'est tout, quoi. Donc le clitoris ne sert plus à rien. Mais il reste une suspicion de contraception. C'est pour ça qu'il a fallu le bannir. Je pense que le principal moteur... Alors, je m'appuie sur les dates, hein, parce que c'est à partir du moment où le cycle menstruel a été reconnu comme le principal vecteur de l'apparition de l'ovule, c'est dans les années suivantes que des textes médicaux se sont attaqués au clitoris. Donc, dans cette synchronicité qui, n'est, à mon avis, n'est pas par hasard, hein, c'est parce que c'est la preuve que la répression sexuelle est liée à la pensée nataliste.
Donc là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que tu peux nous parler aussi de Freud, hein, parce que tu en parles beaucoup dans tes deux derniers livres.
Alors, l'idée que le clitoris doit être banni, c'est avant Freud. Hein. Les premiers textes, c'est 1885, c'est un grand psychiatre autrichien. Mais donc Freud n'a pas inventé ça. Par contre, Freud l'a repris. Hein. Et quelque part, Freud a fait allégeance aux natalistes. Et comme Freud est très connu, il a été le grand exciseur psychique de l'Occident. Et ça, c'est incroyable, parce qu'il a avancé sous couvert de... Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la sexualité. Et en même temps, il a lutté contre la sexualité des femmes. Alors, où Freud... parle de la sexualité, vraiment, c'est dans son livre « Les trois essais à propos de la théorie sexuelle » qui est paru en 1905. Et c'est un livre que Freud a annoté et enrichi jusqu'en 1936. Et il a souvent dit que c'était son livre le plus important sur la sexualité. Alors, je vous donne ce qu'il dit dans ce livre « Les trois essais à propos de la sexualité ». La zone directrice est, chez l'enfant féminin, située au niveau du clitoris, étant ainsi homologue à la zone génitale masculine située au niveau du gland. Tout ce que j'ai pu recueillir par expérience sur la masturbation des petites filles concernait le clitoris et non les parties de l'organe génital externe. Petite remarque, le clitoris au début du XXe siècle, était, 1905, était connu et la similitude avec le sexe de l'homme était connue, hein, puisqu'il en parle, il va encore en parler un petit peu après. Les décharges spontanées de l'état d'excitation sexuelle, justement si fréquentes chez la petite fille, se manifestent dans des spasmes du clitoris et les fréquentes érections de celui-ci donnent aux filles la possibilité de juger exactement des manifestations sexuelles de l'autre sexe, même sans en avoir été instruites, en transférant sur les garçons les sensations de leur propre processus sexuel. » Après, il va dire que la fille, une fois adulte, doit abandonner le clitoris pour n'investir que le seul vagin. Hein ? Il va même dire « La vie sexuelle de la femme se divise régulièrement en deux phases, dont la première a un caractère masculin. Seule la seconde est spécifiquement féminine. » La première est masculine parce que le clitoris est reconnu comme étant masculin. Donc il va s'appuyer là-dessus. Une autre complication provient de ce que la fonction du clitoris viril se poursuit dans la vie sexuelle ultérieure des femmes de façon très variable et ce qui n'est certes pas comprise comme satisfaisante. En effet, du complexe de castration sont tous différents chez la femme. la femme reconnaît le fait de sa castration et avec cela, elle reconnaît aussi la supériorité de l'homme et sa propre infériorité. Hein? Donc il justifie, Freud justifie par l'anatomie l'infériorité de la femme. L'homme n'a qu'un seul organe sexuel, donc c'est sa supériorité, il n'a pas de transfert à faire. Et la femme, elle a ce transfert à faire du clitoris vers le vagin, ce qui va l'affaiblir. C'est la position de Freud, quoi. C'est assez effarant. Ben, la science a suivi, puisque le clitoris a disparu quasiment des traités d'anatomie médicale et a disparu de tous les dictionnaires. Hein, si vous cherchez chez vos grands-parents un dictionnaire des années 60, il n'y a pas l'entrée clitoris.
Oui, mais comme on le disait tout à l'heure sur la procréation, les femmes, elles le savent qu'elles ont un clitoris. Comment t'expliques que justement ce qu'a mis en avant Freud perdure encore jusqu'à nos jours ?
Eh bien, elles ne le savent pas si bien que ça, parce que alors ça paraît bizarre encore, parce que bon, c'est à portée de main, effectivement. Mais eh ben, si on n'en parle pas, il y a un tiers des femmes qui le trouvent seulement. Il y a deux tiers qui ne le trouvent pas. Comme quoi la pensée est forte, parce que la pensée de l'orgasme vaginal, on va en parler de l'origine de ce terme-là, mais fait qu'elle n'investisse, elle ne cherche le plaisir que dans l'entrée du vagin. Quoi. Ça, c'est une question que je n'ai pas trop élucidée encore. Pourquoi, en cas de négationnisme clitoridien, il y a plus de la majorité des femmes qui ne le trouvent pas quoi. Dans les collèges, les enquêtes dans les collèges, pourtant c'est les jeunes filles qui sont pubères, eh ben, elles ne connaissent pas le clitoris. Quoi. À 16 ans, elles ne connaissent pas le clitoris. Quoi. Elles vont le découvrir plus tard après. Alors sur l'origine de l'orgasme vaginal, il y a déjà un universitaire, Thomas Laker, qui avait publié que le terme d'orgasme vaginal était apparu dans les années 1920 et qu'on ne l'avait jamais, il ne l'avait jamais retrouvé dans des textes antérieurs. Comme moi-même, je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas lu tout le livre. Lui a fait des recherches plus larges. Donc on a pensé que c'était Freud qui avait inventé l'orgasme vaginal. Des travaux récents ont montré que ce n'était pas Freud, c'était des élèves de Freud. Alors, je donne les noms dans le livre, enfin, ça revient, c'est la psychanalyse qui l'a fait, même si ce n'est pas Freud lui-même. Quoi, voilà. Dans les textes anciens, l'orgasme n'est pas forcément décrit clairement. Ça a varié suivant les décennies. Au XIXe siècle, le terme qui revient le plus souvent, c'est le terme de spasme vénérien. Spasme, parce qu'au moment de l'orgasme qui est court, ben on a des spasmes, des petits mouvements musculaires incontrôlés. Et vénérien, ben c'était un mot qui c'est la même origine étymologique que Vénus. C'était de l'amour, quoi, les spasmes de l'amour. Quoi. Pour les natalistes, c'est une définition très angoissante, le spasme vénérien, parce que déjà, ça dit pas s'il y a du sperme. Si la femme se masturbe toute seule, par exemple, il n'y a pas de sperme. Et même si c'est l'homme, ça ne dit pas où aboutit le sperme. Hein? Donc les natalistes rêvaient d'une définition qui contrôle la balistique spermatique, au plus près des ovules. Et la psychanalyse l'a fait en inventant le terme de toute pièce. Ils n'ont fait aucune étude. Hein. C'est une pure invention idéologique en inventant le terme d'orgasme vaginal. Là, on était sûr au moins que le sperme aboutisse au bon endroit.
Au bon endroit, là où il fallait qu'il aboutisse.
Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que, en reprenant cet exemple-là, et ça pourrait se généraliser à pas mal de choses que tu mets en lumière dans ton livre, c'est que la médecine et la science suivent au final ces idéologies ou cette morale. Alors qu'aujourd'hui, scientifiquement, on est à peu près sûr que l'orgasme vaginal n'existe pas.
Alors, dans les milieux médicaux, c'est pour ça que ce livre, à mon avis, a du sens. Hein. La médecine est restée très nataliste. Et dans les congrès de sexologie, par exemple, on ne parle pas de la masturbation, ce n'est pas de la sexualité. On ne parle que de la pénétration. Ah, j'ai vu des congrès où ils parlaient des pannes d'érection. Ben, sur les diapositives, on voyait s'il n'y a plus d'érection, il y avait un grand trait, il n'y a plus de sexualité. Quoi.
Mais ça, c'est... Excuse-moi, du coup, je te coupe. Mais c'est vrai que toutes les pratiques en dehors de la pénétration, on appelle ça des préliminaires. Comme si ce n'était pas en soi une forme de sexualité, en fait.
J'ai lu sur un blog une femme qui disait on appelle l'orgasme de la femme les préliminaires.
C'est ça. Ça compte pas, quoi. Ce qui compte, c'est la pénétration.
Oui, c'est. Bon, alors quand même, le sexe non pénétratif, il existe aujourd'hui quand même. Mais c'est vrai que c'est encore la pénétration qui est le plus important.
pour toi, du coup, cette pensée nataliste, elle se situe où maintenant ? Quel niveau on va pouvoir la retrouver ?
Alors, où elle est la plus visible, c'est sur la lutte contre l'avortement. Mm. Simone Veil avait dit, on a acquis le droit de l'avortement, mais elle avait dit, soyez vigilants parce que ça sera attaqué un jour ou l'autre. Et c'est attaqué en Europe. Ça a été attaqué en Espagne il y a 2 ans, ça a été attaqué en Pologne. Il y a eu des victoires récemment en Irlande, ce week-end en Argentine. Mais ça pourrait être remis en cause. Trump a coupé le remboursement de l'avortement. Et Trump s'est attaqué au remboursement de la pilule aussi. À mon avis, rien n'est gagné, quoi. Si les natalistes reprennent du poil de la bête, même la contraception sera remise en cause.
Mais c'est fou parce que là, à l'heure actuelle, on est 7 milliards sur Terre, on a augmenté notre population par 7 depuis le début de la révolution industrielle, hein, c'est ça qui s'est passé. Et on est encore dans cette pensée-là, alors que ça devient une aberration finalement.
Alors d'un point de vue économique, je pense que c'est une aberration. Oui. Ouais. Mais c'est une aberration qui n'est pas très bien comprise. Hein. Quand on en parle, moi j'en m'amuse à en parler dans des soirées, tout ça, il y a beaucoup de gens pour qui c'est juste pas pensable. Quoi. La vie passe avant tout. Quoi. Et puis il y a cette phrase d'un célèbre qui dit que celui qui croit à une croissance infinie dans un monde fini, notre Terre, on en connaît les limites maintenant, celui qui croit à une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Parce que l'économie, la croissance économique, c'est ce qui prime, quoi. Et les gens ne sont pas prêts à ce qu'on touche à la croissance. Et une dernière illustration de la place de la pensée nataliste encore aujourd'hui, c'est les dernières élections présidentielles. Dans les primaires de la droite, tout le monde pensait que Juppé allait passer. Et on n'a pas vu que Fillon était soutenu par la Manif pour tous. Mmh. Et c'est Fillon qui avait le programme anti-avortement le plus poussé. Hein, donc il est passé et après ça a fait ce que ça a fait, quoi.
Donc, toi, Jean-Claude, tu es un peu un militant du clitoris, hein, quand même, on peut le dire.
Et de la connaissance de la sexualité, oui.
Et de la connaissance de la sexualité. Juste un petit clin d'œil, parce que tu as fait un petit crop clitoris. Je vois que même tu as le t-shirt. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette petite aventure ?
Oui, alors, avec ma collègue Marie-Noëlle Lanuit, qui est aussi sexologue, clinicienne, après la sortie du clitoris d'impression 3D, on a eu l'idée et on avait les moyens techniques. Dans un champ, on a taillé un clitoris de 120 mètres de long. Voilà. Qu'on pouvait bien voir avec un drone. Quoi. Voilà. Et on a fait on a fait aussi une petite manifestation où on avait demandé aux femmes de venir habillées en rouge et de se répartir uniquement sur le gland du clitoris. Parce qu'il n'y a que le gland qui est sensible. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Les structures profondes ne sont pas innervées. Sont si peu énervées qu'elles n'ont pas de fonction érogène, on va dire.
Eh ben, Jean-Claude, merci beaucoup. Donc, on rappelle le titre de ton dernier livre, « Du bon usage du sexe, l'injonction nataliste contre la liberté sexuelle » aux éditions H&O. Merci.
Merci. Je te doute.